C'est parti, roulez-libre Olivier. Nous avions en tête de finir cette saison par un bilan de toute beauté. Il y a quelques esprits contrariés, il y a quelques situations contrariantes. On va avoir l'occasion d'y revenir évidemment durant ce bilan de Grand Prix. Mais je voulais te présenter mon verre, Olivier.
Oui, bah écoute, si tu as soif pendant le bilan, j'ai envie de te dire vas-y, évidemment. Alors je salue tout le monde quand même, hein. J'ai pas l'habitude de le faire de cette façon-là, mais je le fais. Puisque de toute façon ce bilan ne ressemblera à aucun autre, donc je peux tout à fait me permettre le faire différemment.
On a eu l'occasion de nombreuses fois durant cette saison qui, quoi qu'on en dise, restera historique malgré tout, parce que le terme historique n'est pas un qualificatif positif ou négatif, ça signifie juste que ça marque l'histoire, ce qui est le cas.
Oui.
On a eu l'occasion sur les 21 autres bilans de cette saison, quelquefois, d'avoir des bilans qui n'étaient pas tout à fait pareils. Écoute, il était écrit que 2021 ne serait pas une année normale, bah c'est confirmé. Hein.
Oui, on s'était quitté après le bilan du Grand Prix d'Arabie Saoudite en se disant qu'on espérait avoir un bilan après une belle course, bien régulière, bien propre surtout.
Ah.
Alors propre, elle l'a plus ou moins été.
Oui, voilà.
Presque. Régulière, beaucoup moins. Et bon.
Bah, c'est-à-dire qu'on espérait, on va y revenir évidemment, puisque vous vous doutez bien que ce sera le fait marquant de ce Grand Prix, on espérait que la FIA ne joue pas un rôle dans l'attribution du titre. Et d'une manière ou d'une autre, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas nier, que l'on soit fan de Verstappen, de Hamilton, ou pas du tout, de l'un ou de l'autre, on s'en fout, on ne peut pas nier que la fin de ce Grand Prix et la manière dont la FIA a géré cette fin de Grand Prix reste quand même particulière. On aura l'occasion d'en reparler, il y aura des arguments des uns des autres, il y aura des discussions dans les commentaires. J'en profite, on est à 2 minutes du début de la vidéo. À la moindre insulte, ça dégage. Hein. Si vous voulez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème, alors je veux aucune insulte. Et ça vaut pour toi aussi, Olivier, ça vaut pour moi aussi. Hein. D'accord, je précise. On débat correctement, on débat intelligemment et on prend le temps de se dire les choses de manière adaptée. Parce que franchement, c'est pas votre vie qui se joue sur la question non plus, même si on peut se sentir concerné, mais voilà. Ce petit point étant fait, l'affiche du Grand Prix d'Abu Dhabi, Olivier. Nouveau circuit quand même, mine de rien, et ça, j'aimerais qu'on y revienne, puisqu'il y a eu de nombreuses modifications. Il y a eu d'un côté la suppression de cette chicane juste à la fin du premier secteur pour entraîner une sorte d'épingle qui a permis en fait, d'ailleurs, d'arriver un peu plus vite dans ce virage-là, d'avoir une potentielle situation de dépassement plus intéressante. C'était sympa, cette partie-là.
Oui. C'est réussi.
Non mais franchement, mais oui. Ça marche.
Tout à fait.
On a également aussi le virage 9 qui est l'enchaînement après la deuxième zone DRS, où plutôt que d'avoir cet enchaînement très étroit qui certes permettait quelques dépassements, malgré tout était quand même particulièrement désagréable, ne serait-ce qu'au niveau de la télévision, c'était pas du tout télégénique. Là vous avez presque deux trajectoires possibles, voire même limite 3 dans ce virage 9. C'est quand même plutôt sympathique aussi. Là aussi, de mon point de vue, c'est réussi.
Ça ressemble beaucoup plus à un circuit de Formule 1 en fait. Donc oui, je valide.
Et surtout, le plus gros problème, c'était quand même le troisième secteur, il faut se le dire. Des virages 10 au virage 16, il y a eu en fait un peu tous les virages. On a légèrement retravaillé les courbes, cassé un petit peu les effets d'angle droit, si ce n'est le 12 qui est toujours aussi un petit peu plus marqué, mais c'est un peu logique du fait de cette grande zone d'accélération avant. On a un peu cassé cet effet, je trouve que c'est beaucoup plus... Alors c'est très léger, hein, mais je trouve ça plus sympa à regarder quand même.
Ah oui, non, mais vraiment, le seul truc qui effectivement est compliqué à changer, c'est que voilà, la piste passe en dessous de l'hôtel, il faut bien revenir de l'autre côté, bon, on peut pas faire de miracle non plus. Ressemble beaucoup plus à un tracé.
Il n'y a pas que l'hôtel, Olivier, parce qu'il faut aussi ne pas non plus oublier que tu as une marina également. Donc même si c'est peut-être plus simple d'éventuellement bétonner la marina, mais malgré tout, tu ne peux pas non plus complètement ignorer la présence de l'hôtel, tu as entièrement raison, à moins de faire un troisième secteur en tunnel, pourquoi pas.
Éventuellement. Non. C'est beaucoup mieux, sincèrement, ça ressemble réellement plus à un tracé de F1 et à un tracé tout court, parce que bon, avant, c'était quand même pas trop ça. Un vrai plus sur ces modifications-là, ça peut peut-être amener aussi des réflexions. Attention quand même, je vais juste dire ça là-dessus, à ne pas généraliser cette espèce de sentiment de « on supprime des virages lents pour des virages rapides ». Ça ne marche pas à tous les coups. En Espagne, par exemple, je suis assez peu convaincu du changement qui a été opéré.
Oui, parce que ce n'est pas forcément ce virage-là qui posait le plus de problèmes dans le fonctionnement du circuit d'Espagne. C'est plutôt les enchaînements de la fin, et donc justement on serait soit un virage lent là aussi pour mettre des virages plus rapides, c'est plus adapté de manière à avoir une meilleure vitesse et même ne serait-ce qu'un challenge sportif un peu plus intéressant, parce que autant ce cinquième virage, cette première épingle et la fin du premier secteur n'est pas un si gros challenge que ça, parce que ça reste quand même relativement simple à prendre, autant ce virage 9 est vachement intéressant parce que on rentre dans le virage en fait et on ouvre un peu cette trajectoire, enfin il y a une trajectoire un peu particulière à prendre, et je trouve ça plutôt sympa à regarder, plutôt plaisant. Donc non, c'est cool. Faut aussi donner du positif, et c'était très positif ce qu'ils ont apporté justement sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi.
Damien,
Olivier, oui, dis-moi.
En termes de positif, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui.
Si, on va y revenir après parce qu'on va parler d'AlphaTauri durant les top-laps. La roulée Victor Hélène du Grand Prix d'Abu Dhabi, 10e victoire de la saison de Max Verstappen, 20e victoire en carrière, 34e champion du monde de la Formule 1. Si vous n'êtes pas au courant et que vous êtes là, merci, mais je ne sais pas trop ce que vous faites. Évidemment, c'est le premier titre également de Red Bull, premier titre pilote de Red Bull sans titre constructeur. C'est la première fois que ça arrive. Et ils font partie de ces quelques écuries qui ont plus de titres pilotes que de titres constructeurs. Il y en a quelques-unes qui sont concernées. Et surtout, Max Verstappen a trusté évidemment la feuille d'être en qualification avec la pole position et en course avec le meilleur temps, évidemment, grâce à ses pneus de meilleure qualité. C'était pas à la fin de la course, hein, c'était au cours du 40e tour, je crois qu'il avait fait ça avec ses pneus durs, 9. Olivier, passons au 10 tout de suite, parce qu'évidemment, le plat de résistance de ce Grand Prix va arriver juste après le jingle, c'est le fait marquant. Le fait marquant, Olivier, évidemment, je le porte. C'est ce titre de Max Verstappen.
Ce qui est beau, c'est que ce n'est que de la provoque, puisque, on va se le dire tout de suite, tu es parfaitement neutre dans cette histoire. Donc,
En fait, j'aime bien ce vert parce qu'il est bleu foncé, il est bleu, tu vois. À la bleue, je mettrais bien un gros A. Tu vois, voilà, sur ce bleu. D'ailleurs, justement, je vous fais l'annonce. On tourne ça le 13 décembre, je vous fais l'annonce. Elle, plane, est en marche. Je vous annonce qu'Alpine sera très, très bien en 2022, évidemment. Soyez-en certains et rassurés. Vous notez ce que je viens de vous dire, ça sera le cas. Mais parlons, Olivier, de manière un peu plus sérieuse quand même, de ce qui s'est passé ce dimanche à Abu Dhabi. Alors, on avait envie d'évoquer le titre, parce que mine de rien, il y a quand même un pilote qui a... Il y a une écurie qui est titrée et un pilote qui était titré. L'écurie qui est titrée, d'ailleurs, n'est pas celle du pilote titré inversement, hein, voilà, blablabla. Parce que, mine de rien, 8e titre consécutif de constructeur pour Mercedes, c'est jamais arrivé, hein.
Non, voilà. C'est une première, évidemment.
Oui, tu me diras, les 7 titres consécutifs, l'étaient aussi.
Voilà.
Mais voilà, enfin, ils continuent sur leur lancée du côté de chez Mercedes, bravo à eux. Max Verstappen fait tomber une nouvelle fois Lewis Hamilton.
Comment ça une nouvelle fois?
Oui, parce que Lewis Hamilton était tombé hein, fin 2016, puisque Nico Rosberg avait battu Lewis Hamilton.
Oui.
Pas plus de 4 titres consécutifs pour Lewis Hamilton. Hein.
Non, mais tu as dit Max Verstappen fait une nouvelle fois tomber.
Oui,
non, c'est la première.
C'est,
hein,
c'est l'un de ceux qui ont fait tomber Lewis Hamilton de son piédestal,
oui.
De son
bah, heureusement,
trône.
Heureusement
de
qu'il ne gagne pas chaque année quand même. Hein.
Oui, bien sûr, on est d'accord.
Bon.
Mais bon. Il y a des éléments positifs qu'on peut tirer de cette situation-là et on va en parler maintenant, Olivier, avant que, évidemment, je lâche la bride et je retire la muselière pour qu'on parle d'un certain MM. Mais...
Pas que.
Mais il faut quand même le dire aussi, je suis désolé, et vraiment j'insiste sur le fait qu'on parle de ça maintenant et qu'on commence par ça, parce qu'il faut quand même le dire aussi, sur la saison, Max Verstappen est un champion méritant.
Oui.
Il l'a mérité, ce titre, sur la saison. Il a fait une saison exceptionnelle au volant d'une voiture qui a rattrapé son retard par rapport à la Mercedes et qui a réussi à sortir des prestations de haut vol à différents moments. Et je trouve que ce titre-là, il le méritait. Il le mérite. Désolé.
Mais on se l'est dit et je pense que tout le monde, vraiment, à part les gens de très mauvaise foi, mais sincèrement, que les gens soient supporters de l'un, de l'autre ou d'aucun des deux, les gens de bonne foi se sont tous dit avant cette course que les deux méritaient parfaitement ce titre, ce qui est d'ailleurs quelque part toujours vrai, mais en tout cas, le titré allait mériter son titre, et c'est le cas, bien sûr que oui, Max Verstappen mérite son titre de champion du monde. Ça me permet de commencer par là, c'est très bien de le souligner, parce qu'il faut poser un contexte. Je m'en suis jamais caché, donc je vais le dire les choses plus clairement, Damien, avant de commencer le débat. Moi, je suis supporter de Lewis Hamilton depuis 2005, pour être précis. Non, mais c'est bien de poser le contexte,
oui.
Parce qu'en soi, voilà, j'ai aucun mal à le dire. Ça n'empêche pas de débattre. Oui. Et ça m'empêche pas du tout de reconnaître que Verstappen mérite d'être champion du monde 2021.
Et c'est un point qui est important aussi, c'est que ça fait partie des éléments d'analyse que vous avez à pouvoir entendre, vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi. Vous savez, vous avez cet élément-là, très bien. Maintenant, est-ce qu'on disqualifie d'office le discours de quelqu'un qui se déclare fan d'un pilote ou d'un autre ? Non.
Non. Ça c'est l'avis de chacun, mais en tout cas moi je voulais commencer par là.
Non, mais je te le dis parce que
rappeler ça.
Mais je te le dis parce que je considérerais de manière pas acceptable que à partir du moment où tu viens d'afficher cette position là concernant Lewis Hamilton, on disqualifie ton discours que tu vas avoir derrière. Qui, je suis d'accord et pas d'accord sur différents points. On a eu l'occasion d'échanger justement avant qu'on lance le tournage. On a l'occasion d'en parler. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur différents points que forcément je te disqualifie en disant de toute façon t'es fan d'Hamilton, ça sert à rien. C'est pas une manière de discuter. Voilà, j'en parle aussi, parce qu'il faut mettre les petits points. Oui. J'avais évoqué les potentielles insultes qu'il y avait dans les commentaires, justement, lors de la partie précédente. J'évoque ça aussi maintenant. Un supporter affiché de telle ou telle personne, c'est pas un disqualifiant. Il faut juste être capable de pouvoir comprendre et prendre du recul sur les situations.
Et c'est aussi pour ça que je commençais en disant que oui, et oui. Je répète encore une fois, comme ça tout le monde l'entend bien,
oui.
Max Verstappen mérite son titre de champion du monde 2021. Je n'ai aucun souci à le dire, mais je vais d'ailleurs peut-être commencer par cette phrase, Damien. J'aurais vraiment, vraiment un milliard de fois préféré que Max Verstappen remporte ce titre de façon classique, je vais le dire pour l'instant comme ça, au terme d'une course où il aurait été plus fort, au terme d'une course où tout aurait été normal et régulier, je pense que j'aurais été beaucoup moins inquiet que je ne le suis aujourd'hui, beaucoup moins déçu et énervé aussi. Parce que voilà, j'aurais simplement eu à digérer une déception d'un titre perdu, comme ça a été le cas à d'autres reprises, avec d'autres pilotes aussi que j'ai adoré dans l'histoire de la F1. On s'en remet très très bien, on vit très très bien avec, et vraiment vraiment j'aurais largement préféré affronter ce sentiment plutôt que celui qui m'envahit depuis le dernier tour de cette course.
On va entamer la thérapie bientôt, Olivier, mais on va quand même, je suis désolé, je vais quand même insister sur Max Verstappen. On ne peut pas mettre de côté aussi les différentes controverses sur cette saison aussi. Maintenant, des champions sans controverses, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Des très grands champions sans controverses, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Vous avez quand même deux éléments de critiquables pour différents pilotes. Maintenant, ce qui va être important pour lui, on aura l'occasion d'en parler durant les bilans de fin de saison, évidemment, où on va revenir sur chacune des écuries par une vidéo dédiée. Certaines iront plus vite que d'autres, parlons de l'écurie As par exemple, mais on aura l'occasion d'en parler aussi. Maintenant, en fait, d'une certaine façon pour Max Verstappen, je sais pas si c'est pas le plus dur qui commence ou le plus simple. Il a accompli, il est titré. Le plus dur, c'est de confirmer, ou le plus simple, c'est d'y aller détente en se disant c'est bon, j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre, maintenant voilà. Ce n'est que du bonus. C'est deux façons, deux équilibres qui sont à trouver pour la suite de sa carrière. Certains ont accompli le Graal assez rapidement et ensuite n'ont jamais réussi à ne faire autrement que de vivre sur cette historique-là. Direction le Canada, par exemple, parce que je vais lui en mettre une à lui. Hein. Voilà, je vais te le dire ça franchement, parce que je suis désolé, la course m'a énervé.
Et après, tu veux que je sois calme.
Oui. Non, mais... Et à l'inverse, tu as d'autres pilotes aussi qui, par contre, ont eu l'occasion d'être titrés plus tard et qui, justement, ne vivent pas que pour ça. Je penserais à Damon Hill, par exemple, qui n'a pas été titré super tôt non plus en termes d'âge et d'ensemble. Ou même Jenson Button, finalement, qui n'a pas passé ses années McLaren à nous rappeler qu'il était titré. Non, il nous a confirmé que le titre n'avait pas été volé, mais qu'avant, ça avait été des situations complexes. Enfin, bref, mais on en reviendra sur tout ça, en fait, sur Max Verstappen, évidemment.
Oui, on y reviendra, mais c'est vrai qu'en quelques mots, c'est le quatrième, je pense, champion du monde de moins de 25 ans. Je crois avoir vu passer cette info-là.
Et dans l'ordre, il est quatrième, d'ailleurs, justement.
C'est le quatrième plus jeune. Effectivement. Je pense qu'il l'est tôt. Il a déjà plus ou moins déclaré qu'il était dans ton scénario B, c'est-à-dire en mode j'ai gagné, j'ai atteint mon objectif, et donc ce qui vient maintenant, c'est du bonus.
Oui.
C'est un discours très facile à dire le soir d'un titre, évidemment, surtout d'un premier titre. On verra ce qu'il se dit à l'avenir, mais maintenant, la partie plus dure, par contre, c'est d'assumer le statut de champion du monde. Et assumer le statut de champion du monde, c'est avoir une attitude de champion du monde. J'espère, en piste comme en dehors, et j'espère que Max Verstappen sera digne du statut, simplement, qu'il aura Je le souhaite vraiment et j'espère que ça le fera grandir en tant que pilote, en tant qu'homme aussi. C'est à souhaiter parce que cette saison, il n'a pas toujours été à la hauteur de ce statut-là, je trouve.
Je sais pas si on peut vraiment considérer qu'il n'a pas été à la hauteur, mais c'est un champion du monde qui n'est pas totalement lisse et c'est pas grave.
Ça,
Voilà.
c'est sûr.
Non, mais je trouve que c'est pas
Non,
grave.
je dis pas que
Voilà.
c'est grave.
Ça
Je dis pas que c'est grave.
me plaît aussi, ça renouvelle un peu, c'est
Oui.
sympa. On a eu des champions du monde plus consensuels. On parlait de Jenson Button, par exemple, en termes de consensualité. Je ne sais pas si le terme se dit comme ça, mais si, je pense que oui. Jenson Button, c'est quand même, c'est le gentleman, quoi, hein, vraiment, c'est celui sur
C'est
lequel
ça.
il faut aller chercher quand même des éléments de méchanceté, entre guillemets, de la part de
Oui,
Jenson
bien sûr.
Button. Verstappen est plus, d'une certaine façon, un méchant, pas au sens quelqu'un de mauvais. Mais dans le sens où il a parfois été au-delà de la simple du simple gentleman agreement, il est allé franchir quelques limites, mais en même temps, d'un certain côté, ça fait partie aussi du panache du personnage de le faire aussi.
On
C'est.
rappellera Damien, c'est pas pour rien, hein. Michael Hallyday, Steve Larson, tout ça, quoi.
Non mais ça en fait. Non mais justement. Et
Oui.
c'est d'un style. Certains aiment, d'autres moins. Écoute, moi ça me dérange pas après, hein, voilà. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Mais bon, bref, allez Olivier, je te fais trépigner depuis tout à l'heure. Ça fait quasiment 10 minutes qu'on n'en parle pas. Mais il faut qu'on l'évoque.
Oui.
Une fois de plus, la FIA a mis son grain de sel dans le dénouement d'un Grand Prix, dans la manière dont un Grand Prix s'est déroulé, dans la manière dont le résultat a été affecté. Je te propose, avant de te lâcher, de faire un petit récap quand même de la situation. On est à 6 tours de la fin et dans le dernier secteur, c'était au virage 14, Nicolas Latifi perd l'arrière de sa voiture, percute les murs et abandonne directement, hein, véhicule détruit bien entendu, il faut l'évacuer. On est là donc à 6 tours de la fin, hein, globalement à ce niveau-là, on est dans un secteur quand même très particulier. La première des choses qu'on se dit, c'est est-ce que la direction de course va mettre ou non le drapeau rouge pour potentiellement permettre à tout le monde de repartir sur un pied d'égalité et nous faire une Baku? Non.
Alors,
Décision logique et justifiée, est-ce que t'es juste?
oui.
Parce que en fait, on ne met le drapeau rouge que lorsqu'il y a une situation manifeste de danger, ce qui en soi n'était pas le cas à ce moment-là, que ce soit pour le pilote concerné ou par rapport aux infrastructures, il n'y avait pas de danger à proprement parler, donc il n'y avait pas de raison de mettre un drapeau rouge. Premier point.
J'allais juste dire, Damien, c'eût été le scénario le plus plaisant, je pense, pour tous les fans de F1 et pour tous les spectateurs neutres aussi,
Mais
parce qu'on
réglementairement
aurait
pas
eu.
correct.
Mais règle, c'est ça, tout à fait. Ça n'avait pas lieu d'être. Donc on est bien d'accord que le scénario du drapeau rouge, on peut l'exclure.
Oui.
Par contre, Damien, la première chose qu'on fait quand il y a une voiture dans un rail, on met un drapeau jaune.
Oui.
Il n'y en a pas eu. Il n'y en a
Oui,
pas eu.
alors ça, c'est autre chose qu'on va évoquer après dans tous les errements de ce dimanche, parce que les décisions, la virtuelle safety car, drapeau jaune, il y a quand même beaucoup, beaucoup de situations très, très erratiques du point de vue de la Formule 1, mais ça rejoint ce qu'on avait dit par rapport à Jeddah.
Oui, ça rejoint la même incompétence, tout à
Oui,
fait.
c'est une catastrophe. On va être dans la formation les gars en bord de piste. Enfin, écoute, ils sont plein de bonne volonté, il n'y a pas de souci. Je vois personne qui est en bord de piste qui est là pour te dire je vais foutre le boxon. Mais quand tu les fermes pas correctement, les mecs peuvent pas deviner. Hein, donc voilà.
Non, non, mais attends, attends, parce que tapons directement dessus.
Oui.
Le signal, il doit venir du directeur de course.
Ça commence.
Oui, mais attends,
Oui, mais ça c'est justifié.
il faut appeler un chat un chat. Le signal vient du directeur de course. S'il n'y a pas de drapeau jaune avant une safety car. Ce qui, à mon avis, est rarement arrivé dans l'histoire de la Formule 1, c'est à cause de Michael Masi. Soyons clairs.
Première torpille légère lancée à l'endroit
Oui,
de
elle est
Michael
gentille,
Masi.
celle-là.
Elle est justifiée aussi, mais elle est plutôt légère. Bref, donc on fait quelques tours sous safety car. On voit de. Alors là, pareil, encore une fois, ça rejoint la situation précédente. On voit donc et un tracteur sur la piste en train de dégager la voiture et des mecs sans casque hein, en train de balayer.
C'est normal.
Point où on en est. L'idée est avouée hein, de dégager le tout le plus vite possible. Donc en faisant fi, je suis convaincu de l'ensemble des règles élémentaires d'efficacité et de
On s'en
sécurité qui
fout.
sont prévues pour qu'on puisse dégager la piste. On est au tour 56 et là au tour 56 s'affiche, alors qu'on est tour 56 sur 58, hein, s'affiche, les voitures à un tour ne sont pas autorisées à dépasser. Bon, bah là, donc dans ces cas-là, on se dit, bon, bah,
c'est fini.
C'est fini, quoi. Là maintenant, le règlement est clair. Lorsque l'on laisse les voitures à un tour passé, eh ben, on ne peut pas relancer le même tour, on doit attendre le tour suivant. Or, si on doit passer la ligne une première fois, on arrive au tour 57. Oui. Enfin, on rentre dans le tour 58. Et oui. Donc, si jamais... attends. Enfin, bref, en gros, non, tour 56, je m'emmène les pinceaux, mais bref. Ça fait que dans tous les cas, on aurait été contraint de devoir faire passer la voiture de sécurité deux fois.
Oui.
Dont... justement le dernier tour, ce qui fait que la course était neutralisée.
À ce stade-ci, Damien, je fais le petit commentaire qui va avec.
Vas-y.
Michael Masi fait quelque chose qu'il est autorisé à faire, ne pas faire en sorte, pardon, que les voitures ne se dédoublent pas. Il est autorisé à le décider, mais il se contredit déjà par rapport à ce qu'il a mentionné quelques mois plus tôt seulement. Hein. C'était au Grand Prix de l'Eifel, donc 2020. Où il a expliqué qu'il ne pouvait pas passer, il a expliqué lui-même, hein, qu'il ne pouvait pas passer au-dessus de la règle qui mentionne que les voitures doivent se dédoubler et que la course doit être relancée à la fin du tour suivant. Donc déjà, à ce stade-ci, il se désavoue complètement. C'est une première chose.
Oui, parce qu'en fait, en interdisant, c'est-à-dire qu'en signifiant l'interdiction de le faire, il va à l'encontre du règlement tel qu'il était prévu. C'est un point qui est important quand même, parce que c'est pas une question de la piste n'est pas sécurisée, mais si la piste n'est pas sécurisée, tu renvoies pas les mecs en piste.
Exactement.
Donc,
mais
déjà,
de toute façon, la sécurité, on n'en a plus rien à faire.
Hein. Oui, bah ça, oui.
Soyons très clairs, et je le pensais déjà, je le mentionne au passage, c'est déjà ce qu'on a dit à Jeddah. Hein. Ça n'a rien à voir avec le résultat du championnat.
Oui.
À Jeddah, on a bien dit, la sécurité, franchement, rien à faire.
Comme
la course n'aurait jamais dû avoir lieu, soyons clairs.
Ou comme tout simplement aussi avoir tergiversé à Spa, que ce soit en termes de qualification ou de la course. C'était un problème, mais annuler le week-end n'était pas quelque chose d'inenvisageable pour des raisons de sécurité. Hein, je suis désolé, mais bon, bref, on en reparlera. Donc, on a la situation comme ça qui est claire. Bon, bah, on dit on interdit aux voitures de dépasser. Bon, même si c'est pas régulier, bah, on se dit bon, bah, c'est cuit quoi. Enfin, et ça restait pas régulier, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que si la course s'arrêtait en l'état, on aurait eu une contradiction du règlement dans le fonctionnement. Attention, il ne faut pas l'oublier.
Mais on va le dire clairement, dans ce cas précis, la situation aurait été un petit peu à l'inverse de ce qu'elle est aujourd'hui, et Hamilton aurait été titré, pardon, et Red Bull aurait certainement été déposé une plainte.
De manière justifiée.
Contre résultat.
De manière justifiée.
De la même manière, effectivement.
Oui. Bref, on a ça, tour suivant, donc on arrive en fin de 57e tour, ouais c'est ça, en fin de 56e, on arrive en fin de 57e tour, et là, on a en même temps l'indication du « les voitures à un tour peuvent dépasser », et la course va reprendre. Mais, seules les voitures entre Hamilton et Verstappen ont le droit de récupérer leur tour.
Alors là c'est le meilleur passage. On n'a jamais, mais il faut quand même le dire comme ça, on n'a jamais vu ça. C'est un règlement purement et simplement inventé de toutes pièces à cet instant précis par Michael Masi, qui donc décide de lui-même de recréer un suspense total, ou plutôt un spectacle total, dans cette course et dans ce championnat.
Oui, parce que le suspense, il n'y en avait pas. Hein. L'autre en pneu jaune à 40 tours et l'autre en pneu rouge tout neuf, il y a zéro suspense là.
Donc un spectacle total et un titre qui se joue dans le dernier tour, facilité donc par un règlement inventé. Littéralement, ça n'a jamais eu lieu, ça n'aura peut-être d'ailleurs plus jamais lieu, mais ça s'est passé comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on décide de laisser les voitures à un tour reprendre, dépasser, tout en disant qu'on renvoie au même tour. Là, d'un point de vue sécurité, c'est pas très correct, c'est pas très régulier de faire ça, et surtout, c'est pas dans le règlement que c'est prévu. Après, si demain, la FIA décide de modifier le règlement et d'autoriser ce genre de choses-là...
Non, mais avec un si pareil, oui, d'accord, bien sûr.
Mais justement, c'est tout l'intérêt des débats qu'on avait eu sur les réseaux aussi, avec différentes personnes, c'est ça. C'est de se dire aujourd'hui, c'est pas parce que ça s'est passé de cette façon-là que ça pourra pas se reproduire dans le futur si le règlement l'autorise. Mais si c'est pas autorisé aujourd'hui, faut pas
le faire.
Non, voilà. Et comme quelque chose qui était interdit hier, si demain ça devient autorisé, on peut pas juger demain comme hier. On doit juger demain en fonction des règles de demain. Et ça en fait partie. Donc déjà, il y a ça. Et deuxième point, c'est pourquoi, de quel droit, pour quelle justification ne décide-t-on de laisser que Hamilton et Verstappen se battre? Et pourquoi on ne donne pas la possibilité à Sainz, par exemple, de pouvoir se battre aussi? Pourquoi on ne donne pas la possibilité à d'autres pilotes de pouvoir potentiellement rejouer une position? Ricciardo, par exemple, il est là, il fait « D'accord, ok, bah, très bien. Hein. Hop, coude à la portière, c'est bon, ma saison est terminée. » Mais pourquoi tu n'as pas le droit de pouvoir te défendre, en fait? Parce que certaines écuries sont rentrées au stand pour justement tenter quelque chose, et certains pilotes n'ont pas eu le droit d'essayer quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que la première place qui se joue.
Non.
T'as d'autres positions qui peuvent se jouer. Pas forcément sur le championnat, mais ne serait-ce qu'en termes de prestige, de plaisir, de confiance de l'ensemble. Et tout ça, c'est pas normal.
Ah non, mais il n'y a rien qui est normal dans cette situation. Et je voudrais qu'on soit précis sur le scénario, du coup. Ce qui aurait dû se passer à ce moment-là, je parle d'abord de ce moment-là précis, c'est qu'il y avait purement et simplement, réglementairement, plus le temps que les voitures se dédoublent et que la course reprenne. La course aurait dû se terminer sous safety car. Mais, si tout avait, je remonte du coup dans le temps, on remonte un peu plus haut, quand la première mauvaise décision est prise, si à ce moment-là, toutes les voitures se dédoublent, eh bien la course aurait certainement eu au moins un dernier tour. On peut supposer que le résultat aurait été plus ou moins le même l'est réellement.
Oui.
Et à ce moment-là, Damien, à ce moment-là, il n'y avait rien à dire. Mais rien.
Ben non.
Personne ne pouvait rien remettre en cause. Ce qui aurait dû se passer.
Mercedes aurait certainement râlé parce que forcément... Mais
ils auraient joué, ils auraient perdu.
Mais voilà, c'est ça, c'est le jeu. Mais justement, c'est comme tu le dis, et ça, c'est un point d'orgue, c'est un point final à une prestation d'une saison complète de la part de la FIA personnifiée par Michael Masi, qui est catastrophique, cataclysmique. Oui. Vraiment, il faut se le dire. Tu l'as dit toi-même, en fait, c'est que l'erreur, indépendamment de tout ce qui s'est pu se passer avant, l'erreur initiale, c'est pourquoi au tour 56, on dit aux pilotes qui sont à un tour, vous n'avez pas le droit de dépasser. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, excuse-moi, je te le dis comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme ça, tu as complètement mis le boxon une fois de plus. Quoi.
Ouais. Il ne fait que faire de la merde à partir de cet instant, très clairement, jusqu'au bout, et dans tout ce qu'il a fait et dit à ce moment-là. Moi, je déteste viser une personne en particulier. C'est fou de se dire, OK, il est responsable de ce scénario. En fait, si, parce que de la même manière qu'à Jeddah, il a outrepassé son droit quelque part, ou en tout cas, il a pris son rôle à cœur et il s'est dit, pas besoin des commissaires, c'est bon, je décide tout seul. C'est ce qu'il a fait ici aussi. Alors, ici, c'est différent. Il est dans un cas où, normalement, il applique un règlement. Il n'a même pas besoin de demander l'avis des commissaires, en principe. Sauf que, vraiment, ça me laisse un petit peu pantois de me dire qu'il n'y a aucun commissaire autour de lui, aucun de ses assistants qui lui a dit « Attends, c'est pas le bon règlement, ça. » Personne ne lui a dit. Il faut quand même le dire en passant. Mais donc, seul, il décide littéralement de changer le règlement. Je te prends la comparaison que j'ai faite sur Twitter, Damien, et je suis désolé. Certains me sous-entendent qu'elle n'est pas valable. Si l'arbitre d'une finale de Coupe du Monde de football décide de modifier la règle du hors-jeu dans le courant de la deuxième mi-temps, ou même à un quart d'heure de la fin, personne ne va parler de petite erreur, personne ne va parler de maladresse, personne ne va parler de « Oh bah tant pis, c'est comme ça, il avait le droit. » Ce serait le plus grand scandale de l'histoire du sport, je pense. Et je ne vois pas en quoi la comparaison ne tient pas, parce que c'est ce que Michael Masi a fait.
Il a changé la règle et il est revenu ensuite sur la règle qu'il avait changée en rechangeant la règle qu'il n'avait pas respectée initialement. Enfin,
il a de toute façon modifié la règle qu'il aurait dû appliquer.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Justement, et c'est ce point-là qu'il faut garder en tête. Et c'est sur ça qu'on explique. On ne juge pas la finalité. C'est la façon de faire, en fait, qui compte. Et c'est toujours ce qui est évoqué à chaque fois. Même ce qui était évoqué à Jeddah aussi. Même ce qui était évoqué à Jeddah aussi,
oui,
la
sûr.
Façon de faire de cette espèce de négociation, non.
À Jeddah, on n'a pas discuté tellement du résultat, c'était la même chose.
Oui.
C'était tout le processus, tout ce qui s'est passé, dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Alors, les pilotes étaient un petit peu fautifs de ce qui s'est déroulé à Jeddah, c'est différent. Les pilotes étaient impliqués. Ici, ils ne sont pas impliqués, ils n'y peuvent rien. Aucun des deux ne peut strictement rien, tout ça.
Ah bah, vraiment, Verstappen, s'il avait dit « Ah non, moi je n'ai pas envie de gagner comme ça, je passe pas », il serait passé pour un idiot. Enfin, faut pas non plus déconner. Hein.
Complètement. Bah... Évidemment que oui. Bien sûr, personne ne fait ça, et encore bien. Non, évidemment que non. Mais voilà, dans ce cas-ci, les pilotes n'y peuvent absolument rien. C'est aussi la raison pour laquelle on dit clairement que ce titre n'est pas à remettre en cause, le mérite du titre n'est pas à remettre en cause,
non.
Puisque Max Verstappen n'a rien commis d'irrégulier du tout.
Il
a hérité d'un titre qui, réglementairement parlant, si le règlement avait été suivi, Bah, il l'aurait pas eu, mais c'est comme ça. Il en a hérité à cause de circonstances.
On n'en sait rien, toi-même, parce que si au tour 56, il fait son boulot, Michael Masi, et qu'il renvoie les choses correctement...
On est d'accord.
Non, c'est juste que comme ça s'est passé là, il y a des contestations réglementaires possibles. Ça ne veut pas dire que le titre, il ne l'aurait jamais eu. Ça ne veut pas dire que le titre, il ne le mérite pas. Ça veut juste dire que dans l'état, dans la façon dont ça s'est passé, c'est contestable réglementairement parlant. Okay. Pas sportivement, réglementairement parlant.
Alors, maintenant, Damien, j'en arrive, moi, à ce qui vraiment m'interpelle. Non, parce que...
Ouais, parce que je te tiens en laisse depuis tout à l'heure, mais il se débat.
On va aller nettement plus loin.
Oui.
Pourquoi Michael Masi commet-il ce genre d'erreur ?
Parce qu'il est nul.
Soit il est nul, on change de personne, on change de directeur de course et tout ira mieux. Je te le dis honnêtement, aujourd'hui, le 13 décembre 2021, je n'y crois pas une seconde, mais j'espère me tromper. Deuxième possibilité, et c'est un peu en lien avec la première, il est mis sous pression, et on l'a entendu, par les deux équipes. Qui franchement lui parle n'importe comment d'ailleurs. Faut à un moment. Lui répond n'importe comment aussi hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est, soit.
C'est
la foire.
Pour la partie Horner, Wolff et Masi, tous les trois se sont comportés comme des gamins et ont parlé d'une manière inacceptable. Alors certes.
C'est grave. Certes, la part de trois.
Ils sont restés relativement corrects en évitant quelques insultes, même si bon, les insultes ont fusé lorsque le micro était éteint. Mais malgré tout, non, enfin, c'est pas digne, quoi.
Aucun des trois, vraiment, c'est crie comme des. C'est le souk, hein, on en revient finalement à ce terme-là. C'est littéralement le souk. Donc il est mis sous pression, ça explique en partie peut-être les erreurs, mais ça ne doit jamais arriver, de toute façon. Alors, j'entends Nico Rosberg dire oui. Mais alors il faut pas, il faut arrêter, les équipes doivent pas parler à l'arbitre, entre guillemets, pendant le match. Et. C'est toujours arrivé, c'est juste que c'était pas diffusé. Hein.
Après,
c'est toujours arrivé.
J'en conviens, écoute, pourquoi pas éventuellement, mais quand tu es un arbitre qui fait preuve de suffisamment d'autorité, tu es capable de pouvoir siffler la fin de la récré, l'expression que tu as évoquée de nombreuses reprises, mais c'est le cas, et tu dois leur dire bon, maintenant ça suffit. Plutôt que de balancer une réflexion un peu, t'es de, je sais pas, de petite chipie ou de petite peste là, ou de petit con. Genre, quand t'as Toto Wolff qui te dit « Mais non, mais pas comme ça », et puis lui, tu réponds « Bah non, c'est une course automobile. » Mais non, c'est pas cette réponse-là que tu dois lui faire à ce moment-là. Tu lui dis « Non ». Tu lui dis « Toto, ça suffit. »
Oui, c'est ça, on en parlera plus tard. Je t'expliquerai ma décision plus tard.
Voilà.
Ça, il peut le dire.
Mais, et puis au fond, après, derrière, Michael Masi prend la parole. Imagine Michael Masi, pour la fin de la course, prend la parole et t'explique le contexte. D'accord ou pas d'accord, moi je peux comprendre sa manière de réfléchir. Là, on la comprend pas et en fait on la présume. Et c'est là où tu vas aller, parce que je sais où tu vas aller. Tu présumes la manière dont il peut réfléchir, parce
bien
que
sûr.
Tu t'imagines que les pressions ne sont pas liées aux écuries, elles sont liées aux propriétaires de la Formule 1.
Oui, c'est exactement ce que j'imagine, c'est-à-dire que dans ma réflexion, je suis pas certain que Michael Masi soit à lui seul le problème de cette situation. Il me semble quand même qu'il doit y avoir une part, je dis bien une part, d'influence. Ce championnat s'est joué de façon incroyable et deux pilotes à égalité avant la dernière course. Le titre se joue dans le dernier tour. Un scénario qu'on n'a jamais vu, il faut le dire, parce que on remet quand même moins en cause le côté spectacle, la dimension sportive en 2008 quand ça se joue dans le dernier tour. C'est le hasard qui fait les choses quasiment.
Ah c'est oui, 2008,
le contexte d'une course. Le contexte d'une course complètement improbable qui fait les choses. Et souviens-toi, Damien, à l'époque, on s'est dit « Même Hollywood n'aurait pas osé ». Eh bien, la F1 a fait beaucoup mieux en 2021 avec un truc, effectivement, dans les films. Je ne suis pas sûr qu'à part dans les vrais nanars, on aurait osé proposer un scénario comme celui-là.
Alors,
vraiment.
Apparemment, il y a Brad Pitt qui veut faire un film et tout. Bah écoute, Driven 2, il y a le scénario, là.
Le scénario a déjà eu lieu, donc ça ne sert même à rien de le refaire. Non, sincèrement, j'ai cette sensation que, effectivement, Michael Masi, la FIA, vraiment, je le dis ouvertement, est influencé d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas qu'ils sont payés, machin, c'est pas la question. Hein. Ils sont. Ça se fait peut-être de façon indirecte d'ailleurs, hein, influencés pour que le spectacle en Formule 1 prenne une place vraiment prépondérante. Et. Il n'y a pas de meilleur spectacle en Formule 1 que de jouer un titre dans le dernier tour de la dernière course. Ça ne peut pas exister. C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui. Le pire, Damien, c'est que ça aurait éventuellement pu se produire à la régulière, cette situation.
Mais
Ça aurait
oui,
pu.
mais
Ça
oui.
aurait pu.
Et
Ça aurait dû.
ça aurait même dû se jouer comme ça. Enfin
Ça
merde.
aurait même dû.
Et ça aurait été génial de se dire ça,
Et ça aurait été génial.
champion au dernier tour, c'est top, c'est exceptionnel.
Et on ne peut pas se le dire. On ne peut pas se le dire. Et cette espèce d'hésitation complète, de changement d'avis, pour moi, démontre que cet homme est sous pression, d'une façon ou d'une
Mais sous
autre.
pression d'un rôle pour lequel il n'a pas les épaules. C'est pour ça que je te
Il...
dis que pour
Ok.
moi, il est juste nul, parce que je
J'entends.
comprends, tu as des intérêts commerciaux pour la Formule 1, je comprends. Tu es la FIA, qui est une autorité qui est censée être indépendante de ces questions commerciales, hein, déjà dans un premier temps. Mais surtout,
Oui.
c'est que si tu as les épaules pour être capable de leur dire, écoutez, non, pour le coup, moi, il y a un truc qui va pas, c'est que là, j'ai un règlement sous les bras, j'ai quelque chose qui... Tu peux faire n'importe quoi non plus. Tu es l'autorité, tu es l'organe régulateur, tu es une personne qui est censée être... Enfin, t'es un peu au top de la pyramide, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Et Charlie Whiting était critiquable sur de nombreux points. Des fois, on avait l'impression qu'il prenait des décisions un peu étranges, mais il arrivait à les motiver, il arrivait à les expliquer, il
Oui.
arrivait, entre guillemets, à se les justifier. Et dans sa
Ça ne serait
logique,
jamais arrivé.
tu le suis. Charlie
Si,
Whiting a
si.
fait finir des Grands Prix sous une voiture de sécurité, alors que tout le monde pensait que ça devait repartir, et il a dit non,
Oui.
sécurité. Bon, bah écoute, tu t'étais, quoi, voilà, c'est comme ça. Et ben,
Alors,
voilà.
je te pose la question au passage, Damien, en termes de sécurité, avant de revenir au fond de ce à quoi je veux arriver, en termes de sécurité, est-ce que on est parfaitement safe dans ce qui s'est passé?
Ah bah la manière dont
Parce
ils ont
que.
dégagé la voiture, ils s'étaient précipités.
Alors,
Hein.
un, la manière dont on dégage la voiture. Deux, on relance la course en venant de laisser passer des concurrents retardataires. Normalement, il faut attendre un tour de plus pour des raisons de sécurité pour que les voitures essayent de rejoindre, ou en tout cas un maximum de s'approcher de la queue du peloton,
Qu'il y a un grand
c'est-à-dire de
espace.
reprendre leur place.
Voilà. Il y a rien dans le règlement, j'insiste, parce que c'est un point que beaucoup de gens se sont posés. Il n'y a rien dans le règlement qui fasse qu'on laisse passer les voitures un tour pour qu'elles rejoignent la file.
Non.
Aucunement. Non, non. S'ils rejoignent la file, tant mieux. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire en sorte que ces voitures-là n'interfèrent pas dans le duel de ceux qui sont dans le même tour, tout en ayant suffisamment d'espace pour que tu aies le temps de réagir en cas de pépin. Parce que c'est
Et
ça aussi.
je te pose la question, Damien, est-ce que ce n'est pas pour ça que Michael Masi, ne sachant plus quoi faire, mais voulant absolument que la course reprenne parce qu'il était en panique, s'est dit, je fais passer juste ceux entre les deux, comme ça on a une bagarre, et ces gars-là en plus ils sont suffisamment rapides pour ne pas être rattrapés par les premiers.
C'est en partie ça, hein, c'est en partie ça. Enfin, c'est que enfin, la pression, elle était là aussi. Et c'est lui qui s'est mis sous la pression parce que il n'a pas supporté peut-être le risque de se retrouver à devoir assumer d'avoir décidé d'une fin de
Ok.
course qui décidait le championnat sous voiture de sécurité.
D'accord, donc ce mec ne supporte pas de prendre le risque et d'appliquer un règlement,
Parce qu'il est
alors
nul et
qu'il est
qu'il
là
n'a
pour
pas les
ça.
épaules. Il est nul et qu'il n'a pas les épaules. Je rejoins. Il faut un niveau de. Comment dire? Il faut un certain degré d'intelligence, malgré tout, et une part un petit peu
Oui.
de machiavélisme pour se lancer dans une forme de complot, de tentative de machin. Non, je pense que vraiment, il est débordé, il est perdu, le mec.
Attention,
Je dis pas que je ferais son
ce.
rôle, hein. J'en sais rien. Je suis là pour critiquer, je suis pas là pour faire. Mais.
On s'est jamais posé la question, on n'est pas là pour ça.
Mais, en tout cas, c'est pas... lui n'est pas fait pour ça.
Ce à quoi je veux arriver, c'est absolument pas une théorie du complot. Je constate simplement que, au travers d'une saison 2021 qui sportivement a été magnifique à plein de moments et aurait mérité un autre dénouement, un dénouement purement sportif, plutôt que ce qu'on a vu là comme parodie de fin de course de la part de Michael Masi, je vois simplement que, au-delà de la beauté du sport qu'on a pu avoir à plein de moments, il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui la F1 devient petit à petit, et on en a beaucoup parlé, notamment Damien quand on évoquait le sprint, devient petit à petit plus un spectacle qu'un sport. Le débat, il est sans fin parce que la F1, par définition, contient les deux dimensions. C'est un sport qui a une dimension spectaculaire, ou pour certains, un spectacle et une dimension sportive. Mais dans l'histoire de la F1, le championnat s'est toujours déroulé en ayant comme base, comme socle, le sport.
Pas que, il y a quand même.
Le. Si,
Oui, non
si,
mais
si.
Tu pourrais citer des cas dans l'histoire, j'ai pas fait
Oui.
mes devoirs évidemment, mais des cas justement où la volonté de spectacle prend le dessus sur le reste. Je pense,
Oui.
alors certains citent 76 avec le Grand Prix du Japon, très bien, c'est un exemple facile parce que c'est vrai que ça revient. Il y a dans les années 70 aussi ce Grand Prix d'Espagne disputé sur un circuit qui était dramatique, et ça s'est fini de manière dramatique d'ailleurs, ce Grand Prix d'Espagne, justement pour des raisons aussi purement et simplement pécuniaires. T'as plein d'éléments comme ça qui peuvent exister aussi, d'autres situations qui pourront évoquer la capacité même parfois à cacher qu'un pilote est mort sur un circuit pour éviter que le week-end soit annulé. En 94, c'est un peu ce qui s'est passé quand même sur
Bien
Ratzenberger.
sûr.
Tu as des éléments de scandale présents à toutes les histoires, à toutes les époques de ce sport. Je suis d'accord avec toi sur la partie spectaculaire et sportive de ce sport. N'oublions jamais qu'à la base, c'est un loisir
Oui.
qui avait.
Ça en est plus un depuis longtemps quand même.
Mais
Hein.
à la base, ça restait un loisir quand même, qui s'est professionnalisé justement, qui a pris une dimension différente. Maintenant, on a des propriétaires qui doivent aussi faire face à une situation qui est quand même particulière aussi, et il faut rendre le produit attractif également. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et je ne conteste pas cette volonté-là, je questionne la méthode.
Oui, et la méthode est à questionner. Parce que tu me cites plein d'événements de l'histoire de la F1 qui sont des événements ponctuels. Ce dont je te parle, c'est d'une tendance globale. On en a parlé et on était parfaitement d'accord là-dessus. Voilà, les règlements tels qu'ils sont appliqués, tels qu'ils sont décidés, beaucoup, beaucoup, évidemment, tout le débat autour, pardon, des courses sprint, des potentiels grilles inversées qu'on essaye de nous amener petit à petit, tout ce genre de choses fait que la F1 glisse. Je suis désolé, c'est presque insultant ce que je veux dire, mais s'américanise en fait, au fil du temps.
C'est un peu méprisant pour les Américains.
Ouais, mais la NASCAR, c'est quoi? C'est un spectacle avant d'être un sport.
Oui, mais parce que la NASCAR,
Voilà.
à l'inverse, l'IndyCar est américaine et pourtant c'est pas un spectacle pur. Il y a une partie sportive.
C'est pour
Il y
ça que
a
personne ne regarde.
d'autres aspects qui font que ça marche pas aussi. Mais
C'est pour ça qu'aux États-Unis, personne ne regarde l'IndyCar.
ouais, ça va trop mal marcher cette année quand même. Ça marche un peu mieux.
Ouais, allez.
Non mais d'accord, ok, ça fait pas les
T'as
audiences
envie
de la
d'être gentil avec
NASCAR.
eux,
Non
quoi.
mais ça fait pas les audiences de la NASCAR, on est d'accord. Mais bon.
C'est rien de le dire. Moi, voilà, le constat, il est là. La F1 devient de moins en moins sportive et de plus en plus spectaculaire. Et j'en arrive donc à exprimer ouvertement mon inquiétude, et elle est vraiment grande. Et je répète ici que j'aurais vraiment, vraiment préféré que ce championnat soit régulier et qu'on discute aujourd'hui d'un titre de Verstappen indiscutable. Le mérite, il l'a complètement. La course sur laquelle il remporte ce titre, elle est discutable, elle n'est pas régulière, et c'est pas de sa faute. Et moi, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce qu'on a. Tout a été fait pour que le spectacle soit le vainqueur cette saison. Le spectacle est le vainqueur. Je pense qu'il se fichait royalement de qui allait être titré, tant qu'il y avait du spectacle. Ils ont obtenu ce qu'ils ont été chercher. Et je ne peux donc pas croire, quand je dis ils, je parle de la F1, je parle de Liberty Media, je ne peux pas croire que ça n'a aucune influence, ne fût-ce qu'indirecte, sur la gestion de course des commissaires de la FIA et donc du directeur de course également. Je n'y crois pas.
Non mais attends,
Je ne pense
enfin.
pas qu'il y ait une influence directe, je ne pense pas qu'il y ait un dialogue, je ne pense pas qu'il y ait de pot de vin, je ne pense absolument rien de tout ça. Je pense simplement que indirectement, Michael Masi a une tendance désormais naturelle à vouloir que le spectacle ait lieu
Oui.
et non pas que la compétition sportive ait lieu.
Et donc, le problème, même si tu t'y es refusé, je le dis, c'est lui.
Alors,
Maintenant.
oui, c'est lui aujourd'hui,
Tu le
mais
fais
est-ce
partir.
que...
Mais non, non, voilà, c'est là que je vais vous poser la question de la
Bah
solution.
oui.
Tu le fais partir, tu mets qui à la place? Si tu mets
Oui,
quelqu'un
mais
comme
ça m'a
lui,
pas le
ça ne
problème.
changera rien. Le problème sera le même et voilà, ça se
Voilà.
reproduira. C'est la philosophie que veut tendre à suivre la FIA derrière et l'un des espoirs. Je
Oui.
suis désolé, c'était quelqu'un qui a une grande importance, mais c'est qu'il va y avoir un changement de présidence.
Oui, et qui donc pourrait amener finalement peut-être un changement de
C'est
philosophie de ce point
pas
de vue-là.
un manque de respect envers Jean-Todt, mais enfin, je pense que Jean-Todt est peut-être plus
Il s'est pas occupé de la F1,
bah
hein.
voilà, plus autant intéressé, plus autant impliqué, plus autant concerné par la situation, et n'a pas forcément suivi ce qui se passait. Il y avait d'autres choses à faire aussi. Il n'y a pas que la F1 dans son taf, et ça s'est vu très clairement.
Je
Voilà.
vais être très méchant, mais de toute façon, je balance aujourd'hui. Il s'est occupé de la F1 une fois, en trouvant un arrangement avec Ferrari, il y a 2 ans à propos de son moteur. Voilà.
Oui, bon, écoute, c'est comme ça, hein, après, derrière, mais voilà, mais on va voir comment ça va évoluer. Et Olivier, je comprends ton inquiétude maintenant.
Je suis inquiet. Maintenant, vraiment.
Pilote et écurie ont tous,
oui,
expliqué quand même qu'il y avait des trucs qui les dérangeaient dans la manière dont ça s'était passé de se terminer durant ce Grand Prix. Heureusement, il n'y avait pas d'autres enjeux que celui qui s'est déroulé à ce moment-là, parce qu'on aurait pu avoir d'autres trucs aussi qui auraient pu éventuellement se passer.
Enfin, c'est quand même l'enjeu majeur.
Oui, mais malgré tout, je pense que. Oui, justement, mais. L'enjeu majeur ne concernait finalement que 2 écuries, que 2 personnes. Imagine, tu as d'autres écuries, parce que certaines positions, certains points marqués, même, peuvent avoir des incidences énormes pour certains. Mm-hmm. Voilà.
Alors, on se l'est dit avant...
Ça bougera dans la coulisse.
On se l'est dit avant d'enregistrer, il est clair que si plusieurs places au championnat constructeur devaient s'être jouées de cette manière-là, Mercedes aurait été loin d'être la seule à porter réclamation après la course.
Bien sûr.
Et là, je me demande si la FIA aurait simplement répondu comme ils ont répondu à Mercedes. Michael Masi est directeur de course, il fait ce qu'il veut.
Oui, alors,
parce que c'est ça la réponse.
Ouais, alors ça, l'instant. Après, cette réponse, elle n'est peut-être pas acceptable d'un certain point de vue. Maintenant, la Formule 1, ce n'est pas une démocratie non plus. Hein, donc,
Non, mais la réponse... Mais attends, Damien, de toute façon, il n'y a jamais eu de démocratie à partir du moment où, quand tu portes réclamation, tu le fais, dans ce cas-ci, contre la décision du directeur de course de la FIA. Et qui va juger ta réclamation? La FIA. Voilà, il n'y a pas de démocratie, oui, non, effectivement,
mais,
je te le confirme.
Mais ça n'a jamais été l'objectif, hein, dans tous les cas.
Ça n'a jamais été l'objectif, de toute façon. Enfin, et la F1 n'a jamais été une démocratie.
C'est extrêmement clair. C'est utopique de croire que ça a pu l'être ou que ça puisse l'être dans le futur.
Non. Mais donc, je vais au bout, je termine simplement, Damien, en disant ça. Oui, je suis inquiet. Et très clairement, je suis aussi égoïstement inquiet pour moi-même. Parce que si la F1 devient une espèce de parodie de course où le sport passe bien après les intérêts du spectacle, et donc on va dire les choses comme elles sont, de l'argent, parce que c'est ça qui entre en ligne de compte dans la dimension du spectacle, si le sport passe bien après, moi, je m'en vais. Je veux dire, voilà, tu seras tout seul à faire des vidéos, parce que c'est sans moi, clairement.
Je
ne le ferai pas.
Je suis pas certain d'avoir envie de faire des vidéos tout seul. Mais bon, bah si, il faut peut-être que dans quelques mois, il y aura une annonce, hein, pour...
Non, parce que
pour une caution belge à côté de moi.
Je le dis d'emblée, c'est ce qui s'est passé m'écœure, réellement, d'un point de vue... Vraiment, j'estime être objectif de ce point de vue-là. Je n'accepte pas qu'un championnat se joue sur une irrégularité flagrante, comme ça a été le cas. Peu importe qui gagne, j'aurais été, en tant que supporter d'Hamilton, honteux, je le dis ouvertement... j'aurais été triste qu'Hamilton gagne un 8e titre de cette manière-là. Je ne remets pas en cause le fait que Verstappen mérite son titre, mais c'est je suis presque triste pour Verstappen. Vraiment, j'en arrive à ce sentiment-là. Je suis triste pour lui parce que ce qui se passe aujourd'hui, tout ce dont on est en train de discuter, on va lui en parler pendant des années. Or, il ne mérite pas ça, ce garçon. Il est champion du monde, il mérite son titre. Et il ne mérite pas que plein de gens, parce que ça arrivera pendant des années, remettent en cause son titre, alors qu'il ne devrait pas l'être.
Ouais, enfin bon, après, derrière, même s'il avait gagné sur la piste, même si c'était passé, comme on avait dit, Tour 56, les voitures qui passent...
Il y a toujours des gens.
T'en as qui, de toute façon, ont remis en cause sa saison, parce que...
Mais là, il y en a plus.
Non, mais t'en as qui continuent de rigoler par rapport au fait qu'il y a eu l'accident à Silverstone, t'en as qui continuent à rigoler par rapport à Monza, t'en as qui... Écoute... Au bout d'un moment, il y aura forcément des gens qui vont critiquer, qui vont poser des problèmes par rapport à la situation. Je pense que du point de vue de Max Verstappen, il le prend de manière très distante là-dessus. Et au fond, on va lui parler de ça dans le futur. Il balayera ça de la revers de la main à la belle affaire. Voilà.
Complètement, d'accord. Je suis bien d'accord. Hein. Mais là où tu as des petits groupes de gens qui auraient toujours discuté de telle ou telle action pour remettre en cause son titre, tu vas avoir plus de gens ici parce que, je suis désolé, la plupart des puristes, ceux qui... aiment vraiment la F1 en tant que sport, sont mécontents ou sont plutôt... Je parle pour moi, mais je sais que je suis rejoint là-dessus par pas mal de fans de F1, sont un peu écœurés, sont un peu dégoûtés de voir la façon dont sont gérées les choses, et ça n'a rien à voir avec le nom du champion. Et donc, je termine ma phrase là-dessus. Non, il n'y aura pas d'annonce dans quelques mois, parce que je serai là, je suivrai la saison 2022 de Formule 1, Je dis simplement que si à chaque fois, et donc lors de chaque championnat, les choses tournent de la même manière, et que finalement on en arrive à des scénarios complètement délirants, des trucs de film à chaque fin de championnat, là j'arrête, oui, clairement.
Puis
Bien sûr que oui.
on sera peut-être de moins en moins mesuré également. Écoute, fait marquant peut-être le plus dense, le plus long de cette saison, mais en même temps saison historique, fait marquant historique évidemment.
Ouais, mais il est
Donnez-nous,
triste, hein. Moi, je suis
oui,
triste de le faire, hein.
d'accord. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Je répète évidemment les règles de base, hein, pas d'insultes, du respect évidemment, et compte sur vous pour avoir des éléments factuels et intéressants à nous proposer. D'accord, pas d'accord, hein. Après derrière, c'est toujours intéressant évidemment de pouvoir discuter avec tous les points de vue. En tout cas, vous avez le nôtre dans ce fait marquant, Olivier, mais il n'y a pas eu que 56 tours durant ce Grand Prix et il n'y a pas eu que Verstappen et Hamilton. On va en parler évidemment dans les top flops. Les top flops, Olivier, de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, puisqu'il n'y a pas que Hamilton et Verstappen dans la
Ah
vie.
bon?
Non, 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 non. J'aimerais qu'on évoque un pilote en particulier, parce que je suis désolé, mais moi je trouve qu'il a illuminé mon dimanche, très clairement. Il n'a malheureusement pas fini la course, le pauvre. Et donc il n'atteint pas l'objectif que je lui avais donné d'avoir 4 podiums sur les 7 Grands Prix restants, mais tant pis, rien à foutre, rien à faire. Sergio Pérez a été le... Comment dire? Ah, de mon point de vue, même si la saison était complexe, et même s'il termine en quatrième position du classement des constructeurs, il a clairement gagné
Des pilotes.
le... Comment?
Des pilotes, tu veux
Oui,
dire.
pardon, excuse-moi. Il a clairement gagné pour moi la bagarre des numéros 2. Il a vraiment été un vrai pur wingman de Max Verstappen. Parce que si en fin de Grand Prix, lors de la safety car, Lewis Hamilton et Mercedes n'osent pas tenter de rentrer, c'est aussi parce qu'il y a ces fameuses 8 secondes de perdu derrière Sergio Pérez par Lewis Hamilton durant le Grand Prix.
Il est assez probable, pour faire simple, Damien, que sans Sergio Pérez, Max Verstappen, à moins que d'un autre règlement complètement inventé par Michael Masi,
Ah, évidemment.
n'aurait pas pu remporter ce titre. Et d'ailleurs, Verstappen l'a déclaré comme ça. Il a dit
Oui.
que sans Pérez, il n'aurait probablement pas été champion. Je pense que c'est vrai. Et donc Sergio Pérez, contrairement à Valtteri Bottas, a répondu présent. Alors, vous me direz, Pérez a un contrat, Bottas s'en va. Mais il n'empêche, Pérez a fait le job jusqu'au bout.
Valtteri Bottas s'est déclaré qu'il était prêt à sacrifier sa course pour Lewis Hamilton. Il a sacrifié sa course.
Pour personne.
Il avait juste envie de boire
Voilà.
des... Non, mais il
Bon.
avait juste envie de boire des mojitos et sauter en combinaison dans la marina. Alors, est-ce qu'on peut résumer la carrière de Bottas sur Mercedes à cette course à Abu Dhabi? Non. Est-ce qu'on peut
Non, mais par
résumer,
contre.
par contre, est-ce qu'on peut résumer l'impact de Bottas dans le Money Time pour Hamilton à cette course? Je trouve que oui. Parce que les exemples sont multiples de situations où l'absence de Bottas en couverture de son leader a pu jouer, et il n'est pas impossible
Ça
que
a
ça ait
coûté
pu jouer
cher.
plusieurs fois cette saison.
Ça a
Autant
coûté
sur le
cher.
constructeur, il a marqué des gros points quand Pérez n'en marquait pas.
Oui.
Mais par contre, il y a parfois eu des situations où Hamilton était un peu dans la situation des opposants de Mercedes par le passé, c'est-à-dire qu'à deux contre un.
Oui, c'est ça en fait. Hamilton s'est trop souvent retrouvé dans le Money Time, on insiste bien là-dessus aussi, à deux contre un face à Verstappen et Pérez. Ça a clairement coûté des points, ça a clairement permis à Verstappen de mieux jouer certains coups, dont cette victoire à Abu Dhabi et
Bien
donc le
sûr.
titre. Ça joue clairement dans la saison. Puisque Bottas est le seul autorisé à parler hein, chez Mercedes jusque-là. Bottas est donc. Il peut être désolé. Il a dit qu'il était triste pour Hamilton. Oui, très bien. Mais il n'est pas irréprochable dans cette histoire.
Je le sens sincère quand il est triste pour Lewis Hamilton.
Oui.
Maintenant, la question, c'est a-t-il tout mis en œuvre pour essayer d'aider Hamilton, qui semble être comme un copain, hein? Je suis pas certain. Et je trouve que ça finit pas. Ça finit pas
Mais il
forcément.
a.
Ça finit pas mal, mais ça ne finit pas
Non.
bien sa carrière Mercedes.
Il démontre simplement pourquoi il ne sera plus pilote Mercedes.
Et je vais même aller plus loin, parce que pourtant j'ai pas été aussi véhément envers Bottas que toi cette saison. Mais quand tu vois la tournure de la fin de la saison, je me pose sincèrement la question de savoir s'il y
Oui.
avait eu George Russell dans la voiture, est-ce que les choses se seraient passées de la même façon?
Ça fait plus d'un an maintenant que je le dis. Hein. Donc, Bien sûr, oui. Que oui. Je pense sincèrement que le championnat 2021, pardon, ne se déroule pas de la même manière avec Russell dans l'autre Mercedes. C'est une évidence. Ouais.
Après, il faut espérer que pour Valtteri Bottas, il puisse se refaire un petit peu la cerise en allant chez Alfa Romeo. Il ne se battra pas pour des victoires, certes, mais peut-être qu'il sera peut-être plus serein, je ne sais pas, dans l'évolution de ses week-ends. En tous les cas, il fallait vraiment le mettre en avant, cette comparaison, vraiment top-flop entre Perez et Valtteri Bottas durant ce week-end. Olivier, je veux poursuivre après derrière, on va parler d'autres un petit peu, on va rester un peu dans Red Bull, mais... non, d'abord on va parler. Bah si, on reste un peu dans Red Bull quand même. Carlos Sainz qui termine 3ème et qui sur le fil termine en 5ème position du classement des pilotes. J'allais encore une fois faire l'erreur. En 5ème position du classement des pilotes, devant Lando Norris, devant son coéquipier, pour un nouveau podium qui clôture une première saison d'adaptation quasi parfaite chez Ferrari. On en reparlera évidemment dans les bilans de fin de saison. Mais Carlos Sainz, très, très, très convaincant cette année.
Je rêverais, Damien, qu'on mette en fiche la vidéo d'annonce de recrutement de Carlos Sainz chez Ferrari. Tu as clairement dit qu'il serait porteur d'eau de Charles Leclerc, c'était beau. Et là où je t'avais répondu, je pense que c'est un excellent choix.
Voilà. Écoute, je ne me rappelle pas précisément ce que j'ai pu dire, mais si jamais je n'avais pas été convaincu par cette décision, eh bien écoute, mea culpa, tout simplement.
Mais attention.
Et maintenant, faut quand même se dire aussi... pouvait-on raisonnablement considérer qu'il puisse être capable de pouvoir se mettre à la hauteur, sachant que chez Renault, il avait quand même été loin d'être convaincant face à Nico Hülkenberg, qui est quand même pas non plus... Hein, j'aime bien, hein, je suis déçu que ce soit plus en Formule 1, Nico Hülkenberg, mais c'est quand même pas non plus un des plus grands pilotes de l'histoire, et il n'a pas non plus explosé Lando Norris. Donc...
On pouvait se poser la question, quand je parle de, quelque part, le petit mea culpa que tu pourrais... Il est valable pour plein de gens parce que effectivement, je pense que beaucoup, même moi, je pouvais pas m'attendre à ce que Sainz soit devant Leclerc au terme du championnat. Ça, sincèrement, je l'aurais quand même pas parié. On va se dire les choses comme elles sont. Donc, c'est un gros point positif de cette année. Je répète encore une fois aussi, le duo dans son ensemble. Je sais pas ce que donnera la Ferrari l'an prochain, mais je sais que le jour où Ferrari est au top. Ce sera pas facile à gérer d'ailleurs ce duo-là.
Mais ce sera un problème de riche et au fond, je pense que tout le monde a envie de les avoir ces problèmes-là.
Et humainement, je pense qu'il y aurait jamais de débordement à la Hamilton-Rosberg avec ces deux-là. Je pense. On peut jamais deviner non plus.
On n'est pas à l'abri, mais c'est vrai que on verra en fait. En gros, c'est que de tels débordements en fait finissent par avoir lieu peut-être. Quand tu passes un cap ou une trop longue du période de domination, peut-être ça peut évidemment potentiellement jouer.
C'est un top, Damien, de ce Grand Prix, et moi je le dis comme ça déjà, maintenant, c'est un top de la saison, Carlos Sainz, clairement.
Oui.
Je pense qu'on peut vraiment l'affirmer de cette manière-là. Il termine quand même 5e dans un championnat où Ferrari certes remonte, mais Ferrari n'est quand même pas bien, n'est pas à sa place, en tout cas, et où il découvrait la voiture.
Tu as entièrement raison.
Bon, quand même, c'est très très fort. C'est très très fort. Il est donc le meilleur des autres, officiellement.
Oui, et puis malheureusement, il n'a pas pu potentiellement se bagarrer parce que je n'ai pas forcément envie de souhaiter du mal à Lewis Hamilton, mais avec ses pneus neufs, s'il avait eu l'opportunité de pouvoir être juste derrière Verstappen, peut-être pas impossible qu'il se retrouve en deuxième position sur le podium, n'empêche.
Après, à Hamilton, ça ne changeait plus rien. Hein.
Oui, mais ça augmente le nombre de points qu'il peut marquer potentiellement, ça augmente l'écart qu'il peut marquer par rapport aux autres. Et faire une deuxième place, c'est pas anodin.
Non, mais de toute façon, le podium en soi n'est pas anodin. Je pense vraiment pour Carlos Sainz. On a encore d'autres choses à dire. Enchaînons, Damien.
Les deux AlphaTauri, Yuki Tsunoda en tête, qui nous font une fin de Grand Prix de toute folie, puis surtout Tsunoda. Et surtout Yuki Tsunoda qui, bien plus que Pierre Gasly durant ce week-end, a... quasiment été parfaite du début jusqu'à la fin. Qualification en Q3, plutôt bien maîtrisée quand même de la part du pilote japonais. Et surtout, on termine en 4ème position pour, de loin, son meilleur résultat en carrière. Alors, ça n'exclut pas, et pareil, on va pas trop rentrer dans les bilans de fin de saison, ça n'arrête pas, ça n'enlève pas tout ce qui s'est passé durant cette année. Mais si ça peut permettre au pilote japonais de bien finir 2021 pour bien commencer 2022 dans une démarche positive, je prends et je signe. Parce que AlphaTauri, clairement, il leur a manqué un Tsunoda performant cette année pour être cinquième au championnat du monde des constructeurs, parce qu'il aurait dû l'avoir, cette place.
Mais tout le monde s'est dit, moi le premier, et toi aussi Damien, que Yuki Tsunoda au Qatar et en Arabie Saoudite avait vraiment l'air mieux, et que ça devait, sans doute, être lié au fait qu'il découvrait les tracés, tout comme les autres. Que donc il partait sur un pied d'égalité et que c'était peut-être un peu plus simple pour lui. À Abu Dhabi, même si la piste a évolué, c'était quand même pas le cas. Donc je pense qu'en fait il y a une tendance globale sur la fin de saison qui fait que Yuki Tsunoda est en progrès.
Oui.
Il aura fallu du temps, mais en même temps, on le répète, hein, on l'a déjà dit, il partait de beaucoup trop loin, ça n'aurait pas dû arriver et c'est pas sa faute. Je pense que en 2022, maintenant, légitimement, on peut attendre autre chose de lui, clairement.
On peut et on doit attendre autre chose de lui aussi.
Il vient de terminer quatrième d'une course.
Voilà, c'est pas rien non plus. Voilà. Hein. C'est ce qui a propulsé Gasly dans une dimension différente à l'époque. Maintenant, il faut être capable d'être patient aussi. Une quatrième place, hein, je pense au Bahreïn 2018. Il faut maintenant être patient, réitérer les exploits, montrer que tu as quelque chose. Et surtout, c'est que, à la différence de Gasly à l'époque, Tsunoda a un vrai, vrai, vrai métronome et une vraie valeur, en fait, à côté de lui pour progresser et pour monter en performance, en compétence. Mais là aussi, on en reparlera évidemment durant les bilans de fin de saison. Je voulais pas parler d'autres pilotes aujourd'hui, Olivier, parce que globalement, bon, il n'y a pas eu non plus des masses de choses à citer, si ce n'est. C'est un peu triste pour Kimi Raikkonen, moi en soi, bon voilà, mais un peu triste pour Kimi Raikkonen qu'il n'ait pas pu franchir la ligne d'arrivée de son dernier Grand Prix. Mais en même temps, pas triste pour cette bêtise d'avoir voulu le mettre Driver of the Day pour l'entendre de manière complètement malaise à la radio à la fin du Grand Prix. Vivement que ce genre d'initiative s'arrête.
Voilà, le seul truc que j'ai à répondre, c'est que le Driver of the Day, je n'en peux plus.
Ouais, non, mais c'est
d'une bêtise sans nom.
Ouais. Donc, merde, enfin, Pérez le mériterait au-dessus de tout le monde, franchement. Non, surtout, c'est juste un petit message envers tous ces cons, et je vais employer le terme de manière très franche et très directe, qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'aller attaquer Nicolas Latifi. Que ce soit ceux qui le mettent en cause de manière directe ou indirecte via des tweets pseudo-humoristiques pour expliquer que c'est à cause de lui que Hamilton a perdu le titre. Non, parce que non, tout simplement non. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre que Nicolas Latifi était peut-être le premier désolé de l'histoire quand il a éclaté sa voiture sur le mur, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est que votre apprentissage de la course automobile est encore un peu long et qu'il conviendrait peut-être, si, il conviendrait peut-être de faire preuve d'un peu plus d'humilité. C'est une réaction de con. Je considère quand même qu'il y a toujours de l'espoir envers des personnes, parce que nous-mêmes, nous avons été des cons à une époque aussi, on a évolué depuis. Mais il y a des personnes à forte audience qui se sont comportées, je trouve, de mon point de vue, d'une manière déplacée. Et c'est pas normal. Voilà.
Non, mais ça, y a effectivement des personnes à forte audience qui sont des cons finis. Hein. Moi, je donne mon avis.
Mais je pense que c'est. Vraiment. Non, mais c'est.
Il y a des abrutis, totalement.
Ouais, mais je sais pas. Je reste. Je garde un peu d'espoir de me dire que c'est plus une.
T'as beaucoup d'espoir aujourd'hui,
oui,
c'est bien.
Oui, mais parce qu'en même temps, il faut contrebalancer aussi avec toi. Sinon, on se jette dans le Rhône. Non, si. Je reste persuadé que ce sont des personnes qui peuvent apprendre encore. Non, je plutôt, reste persuadé de ça.
Plutôt la Meuse, hein, par ici, Damien.
Oui, ou la Meuse pour toi. On a dû apprendre la Formule 1. Il y a énormément de personnes qui sont rentrées dans la Formule 1 aujourd'hui. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont face à des avis péremptoires et qui, parce que tu as vu 3 Grands Prix, ça y est, c'est parti, je m'y connais et c'est bon. Tu as des réactions excessives, mais excessives. Enfin, des gens qui se filment en train de pleurer parce qu'Hamilton a perdu. Les gars, oh, redescendez, franchement. Autant que
c'est de la Formule 1. Hein.
Oui, que tu célèbres la victoire, pas de problème. Mais merde, redescendez un peu, quoi. Enfin, faut vous calmer, parce que après, derrière, ça vous fait dire des horreurs, penser des horreurs, vous comporter de manière inappropriée. Et à tous ceux qui sont à forte audience et qui veulent commencer à s'intéresser à la Formule 1, ayez l'humilité de partir du principe que vous ne savez pas. En fait, il y a des domaines dans lesquels j'ai pas de compétences, j'en sais rien. pour faire une référence, si demain je veux apprendre à faire un 3-6 noscope sur Fortnite, je sais qui appeler, mais par contre, si lui me parle de la Formule 1, je vais peut-être lui dire, écoute, non, mon bonhomme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. On a des domaines de compétences différents, j'en conviens. Mmh. Je reconnais mon incompétence dans différents domaines et dans de nombreux domaines, il n'y a pas de problème. Je pense que la Formule 1 est un domaine dans lequel j'ai suffisamment de compétences. Je peux me permettre de te dire que quand tu fais de la merde, tu fais de la merde. Mais par contre, il faut que tu aies l'humilité d'accepter qu'on t'apprenne des choses. Et si dans 1, 2, 3 semaines, ans, j'en sais rien, tu finis par avoir plus de connaissances que moi et pour faire profiter de ton audience de tes connaissances, avec plaisir. Ça rajoutera du monde dans la Formule 1, c'est très bien. Mais merde, soyez humble, quoi.
En deux phrases, en réaction à tout ce que tu viens de dire, Damien, un, ça n'engage que moi, mais je trouve que tu fais trop de pub, en fait, finalement, pour tout ça. Je pense que c'est il le mérite absolument pas.
Je parle pas que de lui, parce que finalement, c'est trop facile de parler.
Non. Je parle pas que des influenceurs, je parle bien de tous ces cons qui ont réagi à propos de la Tifi, au global. Je pense que vraiment, ce sont des abrutis finis.
Mais je reste persuadé. Non, je te coupe la parole volontairement. Je suis désolé, oui. C'est pas respectueux, mais parce que je reste persuadé qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui sont persuadés que Latifi mérite des insultes ou qu'il a fait exprès ce que tu veux. J'espère leur apporter un peu de nuance, de se dire non, écoutez les gars, vous avez une mauvaise lecture. Faites preuve d'humilité de vous dire, écoute, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Merde, mais Nicolas Latifi, tu crois qu'il est content de foutre sa caisse dans le mur, quoi ? Enfin, merde. Non.
Il est pilote de Formule 1, donc déjà par définition. Voilà. À part Nelson Piquet Junior, il y a personne qui a été content.
Oui, encore une fois, c'est une vanne qu'on fait depuis 15 ans, voilà, enfin 12 ans.
Et oui, mais bon, c'est le seul qui s'est foutu dans le mur de façon aussi.
Si c'est le seul de l'histoire sur les 1000 pilotes de Formule 1, si c'est le seul qui s'est mis l'histoire dans le mur et qu'on finit d'en parler encore, voilà, bon, bref.
Je te disais non tout à l'heure quand tu as parlé d'apprentissage compliqué de la Formule 1 parce que je pense que c'est plutôt une acquisition compliquée des neurones, mais ça n'engage que moi encore une fois.
Non, mais écoute, il y a plein de gens, enfin, je te cite, j'ai des collègues de travail qui m'en ont parlé, j'ai mon frère qui m'en a parlé aussi. On n'a pas forcément tous les mêmes grilles de lecture au même moment et on n'a pas tous forcément le même niveau de connaissance à ce moment-là. T'en as qui sont capables de l'entendre, d'autres qui ne sont pas capables de l'entendre, et c'est pas grave. Simplement, c'est qu'il faut être capable de pouvoir entendre quand on t'explique. Aujourd'hui, j'ai changé de travail il n'y a pas longtemps, il y en a plein qui m'expliquent des choses qui leur semblent des basiques, pour moi ça ne l'est pas. Et ben, écoute, j'apprends, j'écoute, j'emmagasine, je commence à un certain moment à comprendre ce qu'on évoque et puis être capable de pouvoir faire des propositions, mais merde, oh, je découvre. Donc, il faut être capable aussi de le faire également, et c'est le cas pour tout le monde. Il faut reconnaître parfois que maintenant, oui, la passion et tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux quelques encarts qu'il y a dans les journaux généralistes pour simplement se faire sa connaissance.
Voilà, ni Latifi, ni Schumacher, hein, parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à dire que Schumacher ayant tellement gêné Latifi s'est mis dans le mur. Et de cette manière-là, Mick a protégé le record de papa.
Alors déjà que Latifi, c'était con, mais alors là, c'est vraiment... Là, d'en arriver à ce point-là...
Et encore, t'es pas au courant de la théorie du complot concernant Alex Albon, peut-être. Oh, je te l'ai fait en deux secondes, Damien. Alex Albon,
ah oui,
pilote...
il va être pilote Williams.
Merci, pilote Red Bull était présent à Abu Dhabi, mais il sera pilote Williams l'an prochain. Voilà. Comme ça, on l'a fait, hein, c'est bon.
Si ceux qui sont capables de faire ça mettent le quart de l'énergie qu'ils dépensent pour ça à essayer, je sais pas moi, de trouver une solution pour régler le problème énergétique ou d'apporter des solutions pour régler le coronavirus... Vous allez le régler.
Ah bah on ira là. Ouais.
Non, parce que autant tu vois, toi tu t'énerves par rapport à la façon dont la Formule 1 peut éventuellement devenir. Moi, franchement, c'est le comportement des gens qui m'énerve de temps en temps. Enfin, sans déconner. Je suis très content et très satisfait et très heureux de voir que la Formule 1 fasse autant d'audience, que des gens qui n'en parlaient pas m'en parlent, que je reçoive des messages de personnes qui ne suivent quasiment pas les Grands Prix qui m'en parlent. Je suis très heureux d'avoir ça. Vraiment. Je n'ai plus, comme il y a 10 ans, de la difficulté à annoncer que je suis fan de Formule 1. Tu vois, vraiment. Ça, ouais, je suis très bien. Heureux de ça. Très heureux. Maintenant, dans l'ensemble...
Il y a le revers de la médaille. Hein.
Dans l'ensemble, dans le volume, il y a forcément des choses plus compliquées. Okay.
Évidemment, tu ramènes des gens qui n'y connaissent rien et qui vont l'ouvrir. C'est évident. Damien, je suis un peu mécontent parce que tu as coupé finalement un tout petit peu vite à mon goût le fait marquant.
Excuse-moi.
Tu prolonges un peu les tops, donc je vais le faire aussi. Et je vais mélanger les deux parce que tant pis, j'ai commencé cette vidéo quasiment en assumant mon statut de supporter. Tout comme, et je te le dis déjà, j'assumerai mon statut de supporter de George Russell l'an prochain.
Oui, mais j'espère.
Voilà, bien sûr.
Je veux un t-shirt.
Il y aura des choses. Il y aura des choses en 2022. Je voulais, j'ai envie quasiment de mettre un top à Hamilton pour sa réaction, en fait. Ou son absence de réaction, c'est comme on veut. Il y a une phrase qu'il a dite à la radio et qui était finalement le strict minimum de ce qu'il pouvait dire sur le coup avec l'émotion. Mais pour le reste, je me demande sincèrement comment on peut être aussi mesuré alors qu'on est en plein dans l'émotion, qu'on est en plein dans la déception, qu'on est forcément très interpellé par ce qui vient juste d'arriver alors qu'on a dominé 95% de la course. Je ne comprends pas comment, sincèrement, encore une fois, c'est pas contre lui, mais je n'ose pas imaginer la situation inverse. Je n'ose pas imaginer la réaction de Max Verstappen si c'était arrivé. Vraiment, je préfère ne pas l'imaginer.
Il l'a dit à la radio juste avant, quand on avait eu l'annonce que les pilotes à un tour n'avaient pas le droit de dépasser.
Il criait déjà au scandale.
Non, il a juste répondu typical decision. Oui, en même temps, tout le monde peut se sentir concerné. Et puis, Max Verstappen, tu l'as dit toi-même, a 24 ans. Lewis Hamilton en a quoi, 36?
Complètement. Et ça rentre en ligne de compte. Mais il n'empêche que même si on a 36 ans et qu'on a 7 titres de champion, il faut pouvoir l'encaisser. Hein, et d'aller féliciter son concurrent de façon très claire et très franche. De faire de même avec Christian Horner. Même si c'est Mercedes qui a le titre des constructeurs, je trouve qu'il faut vraiment en avoir dans le pantalon. Et moi, je 36 ans ou pas, je me sentirais pas capable. Sincèrement, je me sentirais pas capable à sa place. Et je pense que très peu de gens à sa place pourraient le faire.
Et ça vraiment fait partie aussi de l'ensemble du personnage et de son côté grand champion.
Alors, oui, c'est ça. Mais ça n'engage que nous, que toi en l'occurrence dans ce que tu viens de dire et que moi dans ce que je veux dire. Pour moi, ça en fait aussi en partie un très grand champion de la Formule 1.
Bien sûr, mais enfin.
Oui, mais c'est pas l'avis de tout le monde, hein, parce que c'est quelque part un trait de caractère. Moi, j'estime que ça joue vraiment dans le regard qu'on peut porter sur lui. L'autre top, c'est pour toi, Damien. Parce que oui, non, mais vraiment, il en fallait beaucoup dans cette vidéo pour que tu arrives à contrebalancer et à amener finalement de l'espoir pour la suite.
Mais il en faut.
Je pense que t'essayes de m'aider un peu aussi quelque part.
Mes amis sont là pour
tirer un petit peu vers le haut parce que oui, je vais pas mentir, franchement, moi j'en ai très très mal dormi la nuit passée. Parce que je me suis dit, je vais te le dire maintenant, je profite de ce moment pour le dire, je me suis demandé à quoi bon tout cet investissement, alors en temps à regarder des courses, à regarder des qualifs, à regarder tout ça, ok, mais aussi tout ce temps qu'on passe ensemble, toute cette énergie qu'on met à faire des vidéos, à répondre aux commentaires, à tisser des liens aussi avec nos collègues, entre guillemets, de la communauté F1. Je me suis vraiment demandé pourquoi je le faisais, si c'est pour assister à ce genre de fin, à ce genre de scénario irrégulier. C'est le meilleur terme et le plus poli que je puisse employer. Je me suis posé la question, je continue d'être très inquiet, mais je salue ton état d'esprit constructif et plutôt positif.
Mais écoute, tu sais quoi, tu l'as dit toi-même, l'échange, les rencontres et l'ensemble font partie de tout ça. Vous êtes plus de 4000 abonnés à cette chaîne. Il y a pas autant, mais il y a quand même des milliers de personnes qui nous suivent également sur les différents réseaux. Un peu plus sur le contrôle parce que je manipule parce que j'étais plus actif. Mais allez suivre Olivier Tweet aussi parce que il dit beaucoup de choses, parce qu'il dit des choses différentes de moi aussi, parce que il publie, il y a des moments où moi je publie pas, hein, parce que on a tous les deux des métiers et des vies et tout, et allez le suivre également aussi. C'est important, vraiment, tout ça, et tous ces échanges, ces rencontres, tous ces gens que certains j'ai jamais vu autrement qu'à travers l'écran, d'autres que j'ai même jamais vu autrement qu'à travers le texte, mais en même temps, je suis très heureux de toutes ces personnes-là qu'on a pu voir et interagir avec eux, et je me dis que justement, c'est parce qu'il y a tout ça que je suis capable de prendre du recul aussi sur la situation et de me dire, ça vaut le coup, vraiment, hein, ça vaut le coup tout ça. Et on fait partie en fait de l'ensemble de ce qu'est la Formule 1 actuellement, tous à notre niveau, que ce soit nous à faire ces vidéos, que ce soit vous à les regarder, à interagir avec les pouces, les commentaires, à faire découvrir même ne serait-ce que de voir de temps en temps quand des gens parlent de nous sur des réseaux pour dire va voir ce qu'ils font et tout. Voilà, tout ça, ça fait partie de ces éléments-là. Et moi, je suis content, heureux et fier de pouvoir discuter de ça. Et discuter de ce qu'on fait sur cette chaîne avec des personnes qui en sont très loin, parce que c'est un sujet de discussion, parce que c'est un sujet d'échange, et que ça apporte, et que même si on n'est pas toujours d'accord, et ben écoute, c'est très bien. Et je préfère largement passer de nombreuses minutes à discuter Formule 1, à discuter de polémiques de Formule 1, que d'être dans la situation où on n'échange pas, on discute pas, où on est tout seul de notre côté.
Non, non, et
Voilà.
en deux phrases, hein, parce que sinon on va quand même être très très long sur le sujet, et on fera de toute façon un bilan global aussi de cette saison.
Oui.
On y reviendra, mais je ne remets évidemment pas en cause le fait d'être content d'être là, le fait d'être content de faire tout ça. Je questionne plutôt la légitimité de le faire, parce qu'on le fait sur une base, on le fait sur la base du fait qu'on aime ce sport. Et j'emploie évidemment exprès le terme sport. Et
Ouais,
je voudrais que
ouais.
ça continue. Je
Mais
voudrais que ça continue et je suis pas rassuré.
on est passé par différents moments. Moi, après cette année, j'ai pas forcément ressenti ce problème-là. Il y a d'autres moments, d'autres saisons où la passion en prend un coup. Moi, à la rigueur, je me sens plus fatigué parce que la saison était longue qu'autre chose. Mais voilà. On verra bien en tout cas. Mais merci Olivier, en tout cas. Merci à tous, évidemment. On va clôturer ici l'étape flop. On
Oui.
vous attend évidemment en commentaire. On va faire très très vite pour la fin, évidemment, les classements, la note, tout ça, juste après le jingle. La note du Grand Prix Olivier, et évidemment, nous sommes dans une continuité un petit peu de ce qu'on a connu à Jeddah. Je vais maintenir mon esprit un peu positif malgré tout, je te le dis comme ça, je te donne les deux notes de chaque côté. Je mets 4 sur 5 en spectacle, parce qu'on ne peut pas non plus ignorer malgré tout le spectacle qu'il y a eu, hein. Et la victoire s'est jouée quand même au dernier tour. Je vais célébrer quand même ce duel incroyable entre Pérez et Hamilton, qui, même si Hamilton s'est plaint que c'était dangereux, et en même temps c'est un peu c'est un peu le jeu de le faire, c'était quand même particulièrement régulier. Eh oui. Et 4,5 en stratégie, parce que je trouve que il y a aussi une victoire stratégique liée à ce duel entre Pérez et Hamilton en piste qui a rendu la situation est difficile du côté de chez Mercedes. Là, Red Bull a pu profiter de l'occasion et de pouvoir en tirer son épingle du jeu. C'est aussi une victoire stratégique, quoi qu'il arrive. Et donc, justement, ça vaut un 8,5 sur 10.
Je mets donc un 4,5 sur 5 en stratégie pour cette raison-là, Damien, parce que pour moi, ce qui s'est passé avec Perez est avant tout une stratégie Red Bull.
Oui.
C'est parfaitement bien exécuté, tout comme d'ailleurs ça l'avait été aussi en qualification
Ah
avec
oui,
Sergio
on
Perez,
n'a pas
qui,
parlé de
oui.
ça. Ah, mais parce que
Gros
Pérez,
week-end, hein.
non, parce que Pérez lift, donc provoque de l'aspiration pour Max Verstappen durant les deux tentatives de Verstappen en Q3. Pérez fait sa tentative en Q3 dans le tour qui suit le premier tour avorté, et le gars
Ouais,
fait quand
joli.
même mieux que Bottas.
C'est ça.
Alors Norris arrive à
C'est
se
joli.
torcaler parce que très bien, mais malgré tout, le gars avait sorti première tentative, troisième place. Alors oui, Bottas moteur abîmé, fatigué, machin, tout ce que tu veux. On s'en fout, le symbole est là.
C'est effectivement très joli. 4,5 sur 5 donc en stratégie et je vais évidemment être raccord avec mon discours et mettre un 0 en spectacle. Je vais pas réexpliquer pourquoi. Je pense qu'on l'a suffisamment détaillé.
Et vous avez donc eu tout ça à l'écran, 6,5 sur 10 notes du Grand Prix, Olivier, pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Je n'ai pas donné la note de la saison. On vous laisse évidemment jouer dans les commentaires et essayer de trouver notre note moyenne de la saison. C'est pas autant de la fête que ce que j'aurais souhaité, donc il n'y aura rien à gagner. C'est juste pour voir si vous arrivez à le déterminer. On vous donnera la note de la saison, évidemment, lorsqu'on fera notre bilan de la saison pour nous. Pas le bilan d'une écurie spécifique, mais le bilan de roue libre. Les classements, Olivier, donc Max Verstappen champion avec 395,5 points devant Lewis Hamilton 387,5, Bottas officiellement 3e, Sergio Perez officiellement 4e, Sainz passe donc en 5e position, Norris maintient sa 6e place devant Leclerc, Ricciardo était quand même sous la menace de Pierre Gasly, mine de rien, hein, 115 contre 110, Alonso poursuit le top 10, il reste donc devant son coéquipier Esteban Ocon qui certes est battu au point, mais l'a battu en qualification. Et c'est pas rien, Parce que ça fait quand même de nombreuses années que c'est pas arrivé. Je crois que c'est Hamilton, hein, le seul qui avait battu Alonso en qualification sur une saison. 2007, je crois que c'est ça. Hein.
Je pense, oui,
ouais, donc c'est quand même pas dégueulasse. On a derrière les deux Aston Martin, 43 et 34 points, Vettel devant Stroll. Tsunoda, 32 points, qui s'en sort quand même pas si mal. Russell, 16 points, hein, mine de rien, c'est joli quand même pour quitter Williams, Mercedes. Raikkonen devant Latifi, Giovinazzi, le dernier va marquer des points. Et donc, 0 points, 0 pointé pour les As. Mick devant Kubica, qui s'intercale devant Nikita Mazepin, qui n'a même pas eu le droit de disputer le dernier Grand Prix de la saison. Positif déclaré au Covid dimanche matin. Une fin de saison bien compliquée pour eux.
Oui, dans le classement de la F1, sur l'officiel, donc la F1 TV, pardon, eh bien, Mazepin n'a même pas eu droit à son prénom et à son écurie.
Ah oui, c'est un manque de respect, ça aussi, franchement, ça me déconne.
Assez drôle. Côté constructeur, Damien, Mercedes est donc champion, 28 points d'avance sur Red Bull, 613.5, 585.5. Ferrari est donc bel et bien troisième, et donc le titre des constructeurs, soit dit en passant, c'est surtout joué à Jeddah, du coup, principalement, en tout cas, au point. Ferrari troisième, je le disais, logique, donc, devant McLaren. Bon quatrième, malgré tout. Je glisse un commentaire très rapide, Damien, sur McLaren, parce que j'ai assumé mon statut de supporter d'Hamilton. Je tiens à rappeler mon statut de supporter de McLaren et à dire que Lando Norris, bravo à toi, puisque tu es le premier à inscrire autant de points, je pense, avec McLaren depuis un certain Lewis Hamilton. Comme quoi, la boucle est bouclée. Alpine est donc cinquième du championnat devant AlphaTauri. Ils ont donc, je dirais, acquis la position qu'ils devaient aller chercher cette année. Aston Martin, 7e, Williams 8e, Alfa Romeo 9e et As 10e, ça n'a pas bougé depuis un long moment. Et As termine donc 100 points.
N'empêche quand même du côté d'Aston Martin, on en parlera lors des bilans de fin de saison, mais c'est peut-être la plus grosse, le plus gros gadin de la saison entre les ambitions et la réalité. Oui. On a un peu tendance à l'oublier, mais rappelez-vous quand même qu'après deux ou trois Grands Prix de la saison, on avait du côté de Aston Martin la volonté de poser une réclamation hein, sur le règlement et la saison complète. Hein. Rappelez-vous, hein. On a fini par les oublier. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. La saison a été longue, il y aura beaucoup de choses à en dire. Le grand jeu, Olivier, rapidement, petit point. On va évidemment faire une vidéo dédiée pour vous donner le classement. Je sais que vous avez hâte de savoir qui peut remporter le t-shirt et les nombreux mugs que j'avais. Sachant que pour la casquette, j'ai tenté quelque chose, j'attends une casquette justement, et donc avec un peu de chance, je l'aurai pour cette vidéo-là, évidemment, à venir très rapidement.
Petite question, Damien, est-ce que le directeur de course applique un règlement régulier pour ce jeu ?
En tout cas, j'ai fait en sorte d'eux au maximum, hein, okay. Évidemment. L'idée était de récompenser les meilleurs pronostiqueurs, et serons-nous membres du top 20 de ces pronostics ? C'est évidemment toute la question, bien entendu, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai pas de date à vous donner aujourd'hui, parce que d'un côté, il faut qu'on tourne la vidéo, et de l'autre, il faut que je la monte après derrière. Et surtout, c'est que j'espère avoir cette casquette quand même avant de le faire, donc on en reparlera évidemment en temps et en heure. Merci Olivier.
Merci à toi Damien pour ce dernier bilan de Grand Prix de la saison.
Il a duré longtemps celui-là, hein. Il a duré longtemps. D'ailleurs, justement pour la durée, un petit pouce en l'air s'il vous plaît, les abonnements, la cloche, tout ça, les partages, vous connaissez évidemment la chanson, mais Olivier, je te relaisse la parole évidemment.
J'allais simplement dire que comme chaque année, c'est pas tout à fait terminé puisqu'on va se retrouver pour les bilans de fin de saison, et comme nous sommes déjà au moment où on enregistre le 13 décembre, 2022 sera vite là, on aura vite des choses à se dire.
Ouais, on va se retrouver évidemment pour tous ces bilans de fin de saison qui vont nous accompagner d'ici la fin de l'année, bien entendu. Je tenais à te remercier, Olivier, évidemment, pour tous ces échanges qu'on a pu avoir sur la chaîne. Et je tiens à vous remercier tous aussi pour la qualité des commentaires qu'on peut avoir aussi, pour les différentes réactions qu'il y a, pour le fait qu'on soit 4000. Merci aussi quand même sur cette belle chaîne. Pour tout, et aussi, j'aimerais remercier également tous ceux qu'on a pu croiser, et même Mick qui est venu sur la chaîne, premier invité. Il se peut qu'il y en ait d'autres. On ne sait jamais, avant la reprise évidemment. Et bref, merci à tous pour cette saison qui, j'insiste, restera une saison historique
pour, de toute façon, oui.
Pour tout le monde, pour vous comme pour nous, pour la chaîne, pour la Formule 1, bref. Et on va évidemment repartir en 2022 avec, mine de rien, une grande motivation. On va recharger les batteries durant l'été, Olivier, oui, et on sera prêt à tout péter
alors
pour 2022.
durant l'hiver, Damien, parce que tu as dit durant l'été.
Oui.
Mais c'est parce qu'on a l'habitude aussi de la pause estivale.
Oui.
Juste un dernier point, je vais reparler en tant que supporter. J'espère de tout cœur, vraiment pour la Formule 1 aussi, que on n'aura pas le scénario du pire. Pour moi, le scénario du pire, c'est le scénario où un Hamilton qui ne dit rien mais qui est dégoûté se dit « J'ai ces titres, c'est bon comme ça, j'en ai assez, je m'en vais ».
Il y aurait des choses à faire au niveau du point des transferts et tout, et ça peut être très intéressant aussi. Ça peut rebattre les cartes, n'empêche.
C'est dommage
de voir
mais ce serait triste là-dessus.
Ouais, voilà. C'est dommage qu'un champion pareil nous quitte, évidemment, mais d'un autre côté, ça peut nous faire une saison 2022 encore plus dingue.
J'ai compris que je n'allais pas contrer ton optimisme aujourd'hui. C'est très bien.
Tu ne pourras jamais le contrer, je suis là, je suis toujours positif. Bref, merci beaucoup, merci Olivier, merci à tous, on se retrouve très vite, à bientôt, ciao.